Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léni. Il aurait eu 100 ans. Et pour lui rendre hommage, je voudrais raconter le lien si essentiel qu'il a entretenu avec Gustave Mahler. Il disait que pour diriger les œuvres de Mahler, il fallait savoir pleurer, mordre, caresser et prier. Je vous en ai déjà beaucoup dit sur eux deux, mais je vais laisser Jamie Bernstein faire le point.
Mon père s'est si profondément identifié à Mahler, et de tant de manières. Pas seulement parce qu'ils étaient tous les deux chefs et compositeurs, alors qu'il n'y en a pas eu beaucoup au monde qui fassent les deux. Il y a aussi le fait qu'ils ont tous deux été les directeurs du New York Philharmonic. Mahler était juif et a été élevé comme tel, ça faisait un autre lien. Mais plus profondément encore, il y avait une sensibilité émotionnelle à laquelle mon père s'identifiait vraiment en musique. Il avait une même manière de s'exprimer. C'était viscéral et émotionnel. C'est pour ça que mon père a été le chef idéal pour réintroduire Mahler dans le monde.
Léni a entendu pour la première fois une œuvre de Gustave Mahler quand il était encore étudiant à Harvard. Bruno Walter, l'ami de Mahler, dirigeait la 4e symphonie avec l'orchestre de Boston. Léni n'en fait pas des tonnes. Il dit simplement au journaliste Jonathan Gott, qui le questionne à ce sujet, « J'ai été bouleversé ». Et on le croit. Pour commencer à le diriger en 1949, le jeune Léni s'attaque à la 2e symphonie, avec également l'orchestre de Boston. Et sa répétition est même enregistrée pour la radio.
Monsieur Bernstein est en train de répéter la 2e symphonie, dite la résurrection. Je pense qu'il est juste en train de finir le 4e mouvement. Je ne sais pas s'il va chanter, puisqu'il peut choisir entre jouer le soliste et diriger.
Number 3 in the fourth movement. All right.
Wird eine Lichtstunde.
Dès 1960, deux ans après avoir pris la direction du New York Philharmonic, Leni se lance dans la grande aventure, proposer au public une intégrale des symphonies de Mahler qu'il dirige avec Dimitri Mitropoulos et Bruno Walter. Alma Mahler assiste à quelques répétitions. Il reste une célèbre photo de l'événement. Mise en plis impeccable, rouge à lèvres qui déborde un peu, la vieille dame cache ses rides sous une voilette de veuve pour mettre en valeur ses yeux fermés, son air inspiré à l'écoute de la musique de son grand amour. Leni garde un souvenir ironique de son invitation dans sa suite à l'hôtel Pierre. Elle m'a invité à prendre le thé qui s'est révélé être de l'aquavite, avant de suggérer que nous allions examiner quelques souvenirs de son mari dans sa chambre. Elle flirtait comme une folle et sortait tout droit d'une merveilleuse opérette viennoise. Dans la foulée des concerts avec le New York Philharmonic, Leni va enregistrer chaque symphonie pour CBS et cela va lui prendre 7 ans. On peut longuement tergiverser. Est-ce que Leni a été le premier à faire redécouvrir et aimer Mahler au monde entier grâce à cette intégrale? Mahler banni par les nazis, oublié des orchestres européens. Les faits disent oui. La BBC a bien publié toutes les symphonies, mais avec plusieurs chefs en 59, et Raphaël Kublik a enregistré son intégrale chez Deutsche Grammophon, mais de 67 à 71 seulement, donc juste après que Leni ait publié la sienne. De toute façon, aux États-Unis, Mahler est peu joué, si ce n'est par Bruno Walter. Voilà ce qu'en pense Jamie, la fille aînée de Leni.
C'est vrai que Bruno Walter avait déjà réintroduit Mahler dans le monde par ses concerts et ses enregistrements. Mais aux États-Unis, il a fallu un chef américain pour finir le travail et vraiment éveiller le public à sa musique. Ce que mon père a fait d'une manière extrêmement profonde avec le New York Philharmonic. C'est une chose que Bruno Walter, un chef européen, joue du Mahler, mais c'en est une autre qu'un chef et un orchestre américain deviennent les champions de Mahler. C'est d'un autre niveau.
Ce qui est sûr, c'est que l'interprétation que Lenny donne de Mahler impressionne, et pas seulement aux États-Unis. Chacun est surpris. Le compositeur de West Side Story révèle un Mahler oublié et incompris. Lenny met fin aux préjugés sur le compositeur. Il le rend tout simplement accessible et, soyons simples, émouvant plus que jamais. C'est que plus Lenny travaillait sur les partitions, plus il partageait en tant que compositeur des points communs fondamentaux, et plus il le comprenait, et mieux il le dirigeait, au point qu'on peut absolument parler d'identification.
Est-ce qu'on peut refaire la transition pour s'habituer à ce que ça donne sans les sourdines ? Vous mettez vraiment vos sourdines pour la fin du quatrième mouvement, et après on les enlève une par une quand on arrive au fortissimo. Les trois dernières mesures, s'il vous plaît. Rien. Les deuxièmes violons sont trop forts par rapport au premier. Tout le monde tient jusqu'à la fin de la mesure.
Le journaliste Jonathan Cott remarque. Dans un article intitulé « Mahler, son heure est venue », vous accouplez un certain nombre de contraires qui, pour vous, incarnent le compositeur. Chrétien juif, croyant agnostique, philosophe faustien mystique oriental, provincial cosmopolite, sophistiqué naïf, mal dégrossi efféminé, subtil balourd, impertinent timide, pompeux autodépréciateur. Et je suis sûre de ne pas être le seul à penser que bon nombre de ces oppositions pourraient aussi s'appliquer à vous. Quand un autre journaliste demande à Lenny s'il se voit comme le grand connaisseur de Mahler, il répond
« C'est ce qu'on me dit. J'en ai l'impression, mais ce n'est pas moi de le dire. Je ne crie pas sur les toits, je comprends Mahler mieux que les autres. » Mais souvent, je me sens si proche de lui que j'ai l'impression d'avoir écrit tout ça. Et du coup, je peux me la raconter un peu de temps en temps. Toutes les symphonies de Mahler, toutes les œuvres de Mahler jouent sur les extrêmes. Les extrêmes de la dynamique, des tempi et de l'émotion. Quand c'est nu, c'est extrêmement nu. Quand c'est dense, c'est encore plus dense et riche. Quand ça souffre à un point tel que toute la souffrance qui a été montrée en musique est dépassée. Parfois, je me dis que si quelqu'un se contentait d'être là, sans perdre une goutte de sueur, s'il se contentait de battre la mesure, ça pourrait bien être la meilleure manière de faire, de servir la musique. Parce que de toute façon, tout est écrit là-dedans. Et vous savez comment Mahler va vers ces extrêmes énormes dont on a parlé, pour préciser les détails dynamiques. Parfois, sur une seule page de musique, vous avez 5 lignes instrumentales qui ont chacune des manières différentes, et pourtant ils jouent tous la même musique. Et je me demande parfois, mais pourquoi je m'implique autant dans cette histoire? Je suis une épave à la fin de chaque mouvement. Je suis à bout de souffle, en nage. Je tremble, j'ai mal à la tête. L'estomac me monte à la gorge. Pourquoi ne pas me contenter de battre la mesure et de laisser les choses se faire toutes seules? Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. D'abord parce que je ne suis pas sûr que les choses se feraient toutes seules, à moins que je ne dirige en parallèle seulement ces extrêmes qui sont bien inscrits dans la partition. Il y a une autre raison, et que je me sens si profondément identifié à lui que je dois sans cesse convaincre l'orchestre. Il faut que je fasse sortir ce que je veux entendre. C'est trop fort. Les premiers violons, piano. Ils ont un fortissimo, mais vous, vous avez un pianissimo.
Dans son essai filmé, Little Drummer, Lenny propose une analyse de l'œuvre de Gustav Mahler à l'aune d'une de ses sources d'inspiration, l'anthologie de poèmes populaires allemands datant du Moyen-Âge, qui a pour titre Das Knaben Wunderhorn, le corps magique de l'enfant. Le compositeur autrichien s'en est servi pour écrire à la fois un recueil de Lieder du même nom et certains mouvements de ses symphonies. Lenny pense que Mahler s'est identifié au petit tambour, évidemment promis à la mort sur le champ de bataille, et qui donne son titre à un lied.
So
En termes d'identification, Lenny, au début du film, présente Gustav Mahler à la première personne.
Lorsqu'on demande qui j'étais, je réponds un garçon allemand, tchèque, morave, juif, polonais, autrichien, du nom de Gustav Mahler. Nous étions pauvres. Mon père fabriquait et vendait des liqueurs bon marché, un des rares métiers autorisés aux juifs. Il n'aimait pas beaucoup ma mère, et réciproquement, mais ils étaient orthodoxes. Nous allions parfois à la synagogue. Je préférais l'église. La musique y était meilleure. Elle était de Rossini et de Mozart. Et je chantais dans les chœurs. J'avais 13 frères et sœurs. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris cette mélodie, il n'en reste que 3. Mes deux parents sont morts, j'ai 40 ans, je me marierai et j'aurai des enfants. L'un d'eux connaîtra une mort prématurée, et moi de même, dans 10 ans.
C'est une analyse toute personnelle. Mais rappelons-nous maintenant comment Sam et Jenny, les parents de Lenny, sont partis enfants de ces mêmes régions où sévissaient la famine et les ghettos, puis les pogroms, voyageant dans les soutes de bateaux nauséabondes avant d'arriver à Ellis Island. Les parents de Lenny ont vécu les mêmes souffrances que le jeune Mahler. Lenny a raconté ce monde de l'enfance de Mahler dans son ballet « Die Buch », qui n'est pas tiré de poésie, mais d'une pièce de théâtre en yiddish. Il trouve maint autre point commun avec Mahler, ne serait-ce que cette fameuse idée de « melting pot ». Mahler s'est tant inspiré de folklore, et notre Lenny de toutes les sources musicales de son pays. Le goût du théâtre aussi. Lenny disait que chaque symphonie de Mahler était en soi un opéra. Enfin, l'humour, je pourrais même dire l'humour juif, parfois noir, kafkaïen même. Et notre Lenny, qui savait faire rire avec la plus éculée des blagues juives, ne se privait jamais d'expliquer aux orchestres toute l'ironie de Mahler. Mais tous deux partagent aussi l'idée qu'ils sont responsables de l'héritage de l'histoire de la musique symphonique tonale. Parce qu'elle est en danger, parce que Lenny voit Mahler comme le dernier architecte des structures symphoniques telles que les avaient créées Mozart et Haydn. Lenny dit à Jonathan Cott, « Mahler est mort juste à temps. Croyez-moi, les accidents n'existent pas. Il souffrait terriblement de ce qui était en train d'arriver à la musique, avec son brillant élève et collègue Schoenberg, qui adorait la musique de Mahler, et Alban Berg, qui vénérait la 9e symphonie. Mais ils étaient tous en train de détruire la tonalité, et Mahler ne le supportait pas, donc il est mort juste à temps. Voilà pour ce qui les unit. Mais maintenant, il y a un terrible accroc à l'admiration qu'éprouve Lenny pour Mahler. Il sait ce qu'était l'antisémitisme des années 1870 en Bohême. Il sait que le jeune chef d'orchestre n'avait que peu de chances d'avoir un poste à Vienne.
Au point que Gustav Mahler en vient à renier ses origines juives et à se convertir au catholicisme, dans le seul but d'obtenir le poste le plus prestigieux de l'univers musical, directeur de l'Opéra d'État de Vienne. Qui plus est, il ment quant à la date de sa conversion lorsqu'il remplit son dossier de candidature. Il simule ce qu'on pourrait appeler un chrétien prématuré. P.S. Il a décroché le poste.
Lenny, atterré, se passe la main dans les cheveux. À ce sujet, il lui est même arrivé de traiter Mahler de salaud.
N'y a-t-il pas ici un soupçon, et même plus qu'un soupçon, d'un crime que Mahler ne nomme jamais, d'un crime pour lui innommable? Honte, mensonge, dissimulation. N'y a-t-il pas là le germe d'un acte criminel? Surtout s'il est profondément enfoui dans le terreau de l'inconscient, comme c'est le cas pour Gustav Mahler. Et comme toujours, lorsqu'on veut la vérité profonde à propos d'un compositeur, nous devons chercher nos preuves dans la musique. Et ces preuves sont encore dans la troisième symphonie, la plus longue et la plus théâtrale de toutes les symphonies de Mahler. Le refoulement profondément enfoui de sa sensibilité juive éclate soudain dans cette musique comme un chant de coquelicots. Écoutez juste ce passage du mouvement final.
Léni est profondément peiné. Il ne pardonnera jamais sa conversion à Mahler. Mais n'en comprend que mieux l'enfer, et je pèse mes mots, qui s'ensuit. Ainsi, il voit dans ce passage particulier de la troisième symphonie un éternel Yom Kippour.
Un long jour du pardon et de l'expiation. Expiation de quoi? Quelle était sa faute? Pourquoi cette auto-flagellation? De quoi a-t-il honte? Réponse, d'être juif. Mais une honte encore plus grande pour lui fut sans doute celle d'avoir honte d'être juif.
Thank you.
Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Il est une symphonie qui échappe à cette ombre funeste qui plane sur toute l'œuvre de Mahler. La quatrième. Sans doute est-ce celle qui prouve à Leni son indéniable proximité avec Mahler. Il y voit une de ses obsessions, la douloureuse recherche de l'innocence.
Well, you might not believe it.
Ça paraît difficile à croire, mais l'homme qui a écrit ça était un des hommes les plus malheureux de l'histoire. Et la raison pour laquelle il était si malheureux était justement cette bataille qui se livrait en lui. Dans la même symphonie, si joyeuse et si délicieuse, vous entendez de temps en temps cette voix triste, en pleurs, l'autre voix de Mahler, comme si son cœur se brisait au milieu de toute cette joie et de cette gaieté, comme dans ce troisième mouvement de la quatrième symphonie. Est-ce que cette musique a brisé le cœur est le vrai malheur? Ou est-ce la musique joyeuse des grelots? Non, elles sont toutes les deux malheurs, les deux voix qui sont en lui. Alors ensuite, vous allez me dire que tout compositeur passe de la joie à la tristesse. C'est vrai de Mozart, de Beethoven, de Bach. Oui, mais aucun compositeur ne va aussi loin dans les deux directions, tellement triste et tellement gai. Quand Mahler est triste, c'est une détresse totale. Rien ne peut le réconforter. C'est comme un enfant qui pleure. Et quand il est heureux comme un enfant, sans retenue. C'est là une des clés du mystère Mahler. Il est comme un enfant.
Voilà le secret. Mahler nous confie son rêve d'une enfance paradisiaque, loin du ghetto où il a grandi, loin des champs de bataille où le petit tambour court à la mort. Et Leni, lui, n'a cessé de faire chanter des enfants dans ses œuvres religieuses pour illustrer un pur idéal humain, un paradis terrestre. Tous deux ressentent la même nostalgie de l'enfance. Jamie, la fille de Leonard Bernstein.
J'avais 11 ou 12 ans, mon premier contact avec Gustav Mahler a été fantastique. Mon père étudiait la quatrième de Mahler. Un beau jour d'été au bord de la piscine. Mon frère et moi, on sautait dans la piscine et mon père avait apporté un tourne-disque portable sur le bord de la piscine. Comme ça, il pouvait écouter la version de la quatrième de Mahler, par Bruno Walter justement, tout en étudiant la partition. Et nous, on entendait Mahler tout en plongeant dans la piscine. Et de temps en temps, mon père nous indiquait un point précis de la symphonie. Vous avez entendu, là, les grelots ? Et quand on est arrivé au dernier mouvement, il nous a expliqué ce que la soprano chantait. Et ça parlait de la vision du paradis par un enfant. Il nous a expliqué le texte allemand, et quand je repense à cette journée, c'est ma vision d'enfance du paradis. Quand j'y repense, c'est vraiment ma vision du paradis. Sauter dans la piscine, entendre cette merveilleuse musique et avoir mon daddy qui nous expliquait de quoi il s'agissait dans cette musique, assis sur son transat, la partition sur les genoux.
Revenons au Knaben Wunderhorn. Ces poésies qui ont inspiré à Mahler ses Lieder, mais qui lui ont aussi servi de laboratoire pour écrire ses symphonies. Ainsi, il a réorchestré le cinquième Lied de son recueil pour en faire le quatrième mouvement de la quatrième symphonie.
Ce que vous entendez n'est pas seulement un Lied extrait des Wunderhorn, mais un Lied qui, par la magie de Mahler, se révèle constituer l'intégralité du mouvement final de sa quatrième symphonie. Pas le moindre soupçon de judaïsme musical ou autre, où que ce soit. Mais la tendre poésie qui émane de la foi innocente de cet esprit enfantin n'est pas sans rappeler bizarrement la sombre poésie issue de l'esprit d'un autre jeune garçon déjà rencontré. Vous vous souvenez ? Le jeune tambour que l'on conduit au gibet pour expier un crime jamais nommé. Dans les deux cas, il s'agit du même garçon. En fait, ils ne font qu'un avec cet autre garçon que nous avons entendu implorer sa mère de lui donner du pain. Et ces trois garçons s'appellent Gustav Mahler. Qu'est-ce qui les réunit, ces créatures si différentes ? La peur de la mort, l'expiation, l'aspiration à l'état de grâce, le pardon chrétien. Mais le pardon pour quoi ? Quel est le crime de Mahler ?
Thank you.
et Lenny de revenir sur le crime de Mahler comme la clé de sa musique. 1. La culpabilité d'être juif. 2. La culpabilité de cette culpabilité-là. Résumons-nous. Lenny, comme Mahler, est chef et compositeur. Ses parents ont vécu une enfance similaire à celle du jeune Mahler. Il partage avec lui le goût des musiques folkloriques comme source d'inspiration, l'amour de la musique tonale, un indéniable sens du récit théâtral et enfin, ils ont en commun leur sens de l'humour. Toutes les œuvres de Lenny abordent ces thèmes. Celle qui est la plus kaléidoscopique et la plus affirmée en ce sens est sans doute Mass, qui elle-même a des accents mahlériens. J'ai choisi de vous faire écouter Mass pour montrer que Lenny n'en est pas resté aux reproches avec Mahler. Il essaye de comprendre comment le compositeur a dépassé son reniement du judaïsme par une nouvelle obsession, la mort. Et au-delà de la mort, la rédemption, la vie éternelle, le paradis chrétien, ce que Lenny lui-même a longuement exploré dans ses œuvres liturgiques. Tous deux se sont demandés en musique comment dire adieu à la vie, à la tendresse, à l'amour humain.
Sa 9e symphonie, par exemple, s'ouvre en fait sur les battements irréguliers, hésitants, de son cœur malade.
Quant à l'au-delà, quelle merveille de s'imaginer deux paradis, l'un sur terre, juif, et l'autre au ciel, chrétien. Et là encore, ils se rejoignent. Mahler et Lenny rêvaient d'une même spiritualité idéale. Mais pour Lenny, la 9e symphonie de Mahler est la plus grande symphonie d'adieu écrite au monde. Non seulement parce que c'est la dernière œuvre de Mahler, mais surtout parce qu'elle est prémonitoire de ce que sera le monde barbare du 20e siècle. Celui qu'il a vécu et qu'il s'évertue à rendre meilleur par sa propre musique. C'était Un été avec Léni, une émission d'Emmanuel Franc préparée avec Françoise Monteil, réalisée par Éric Lancien. Les archives ont été traduites par Bernard Loupias. Merci à Laurent Ledereur pour la voix de Léni et à Éric Boisset à la technique. Demain, il nous faudra dire au revoir à Léni. Mais pour aujourd'hui, Happy Birthday et à demain pour la dernière émission.